Dans le prophète Ésaïe, il y a un texte, Ésaïe 49, où le peuple pense des choses qui ne sont pas bonnes. Ça peut arriver des fois qu'on pense des choses qui ne nous aident pas. Oui, ça peut nous arriver. Ésaïe 49, verset 14, voilà ce que disait le peuple. Ésaïe 49, 14, « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Regardez ce que Dieu dit. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, c'est Dieu qui parle, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Amen. Un peu plus loin, dans le chapitre 53 d'Ésaïe, un chapitre qu'on connaît fort bien, il est dit à la fin du verset 10, quelque chose que les serviteurs de Dieu, les pasteurs, s'il y en a parmi nous, ou ceux qui écouteront, feraient bien d'entendre. Ésaïe 53, à la fin du verset 10, « Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Vous entendez, mes frères qui écouteraient sur le site, retenez bien cette parole, « L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Nous allons aller dans le Nouveau Testament, une situation délicate qui s'est passée le jour même de la résurrection. Vous connaissez tous cette histoire, mais quand même, je voudrais que ce matin vous compreniez que quand Dieu veut bénir, il doit redire certaines choses très profondes. Jean, au chapitre 20 et au verset 9, c'est le soir de la résurrection, c'est le soir d'un des plus grands jours de l'histoire du monde. Les disciples sont enfermés dans la crainte, ils sont 10, un s'est suicidé, l'autre n'est pas à sa place, il n'est pas là où il aurait dû être. Mais Dieu va quand même lui faire grâce. Béni soit Dieu pour toutes les occasions que l'on a manquées, mais que Dieu a su nous rattraper. Que son nom soit béni. Jean chapitre 20, verset 19. Lisons-le comme si nous le lisions pour la première fois. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt. » Et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu, amen. Regarde mes mains. Mon frère, ma sœur, je sais peut-être, vous ne savez peut-être pas où vous en êtes, mais je suis persuadé que ce matin, vous savez, on chante des cantiques, on a chanté des cantiques d'évangélisation. Vous avez remarqué? Vous remarquez si ce sont des cantiques d'édification? Vous le regardez ça ou non? Vous le regardez? Répondez-moi. Ce matin, j'ai beaucoup apprécié, parce que ce sont des cantiques qui réjouissent le cœur des chrétiens, bien sûr. Mais si vous avez regardé, ce sont des cantiques que l'on peut partager avec des âmes qui ne connaissent pas Jésus. Et je ne sais pas comment nous les avons chantés. Viens à Jésus, il veut te bénir aujourd'hui. Il est un fleuve, de la croix la grâce coule. Si nous réalisions vraiment ce que nous chantons, il se pourrait que tous, je dis bien tous, soient bénis ce matin. Peut-être qu'on vient par habitude, et c'est un drame lorsque l'habitude, le train-train s'impose, on devient des religieux, et même si on aime Dieu, ça ne remet pas en question un amour réel. On passe à côté de la vraie foi, celle qui fait que l'on va entendre la parole que Dieu veut que nous entendions. Dieu veut vous toucher ce matin. Je ne sais pas si vous le croyez. Thomas a fait une expérience, Dieu a voulu qu'elle soit relatée dans les Saintes Écritures, parce qu'on en a besoin. Il n'était pas dans le doute, Thomas. Le doute, j'ai presque envie de dire, ce n'est pas méchant. Il était en train de basculer dans l'incrédulité. D'ailleurs, si vous avez lu le verset 27, Jésus lui dit, ne sois pas incrédule. L'incrédulité, c'est un fléau dans les églises. Ça fait que les gens rendent un très mauvais témoignage. Des fois, on peut passer un moment de passage à vide. On est dans le doute, mais c'est un doute intelligent. C'est-à-dire que bon, je doute, mais je cherche, je doute, mais je m'accroche. Vous voyez, il y a douter et devenir incrédule. Et là, Jésus ne parle pas de doute. On dit douter. Non. Il était en train de tomber dans l'incrédulité. Et c'est grave. Lorsqu'un chrétien est en train d'abandonner, comme le disait le don spirituel, il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. Ils ont perdu le contact avec Dieu. Ils n'ont plus confiance aux frères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les dix apôtres qui ont vécu avec Jésus, qui allaient être 10 hommes qui vont changer le monde, 10 hommes qui, quand même, ils tenaient debout, 10 hommes qui vont dire à Thomas, tu sais, on a vu le Seigneur. Il dit, non, moi je ne vous crois pas. Mais je suis sûr qu'il n'était pas en train, il n'était pas dans le doute. Il ne croyait pas, alors que Jésus avait dit, je ne sais combien de fois, qu'il devrait mourir, et être crucifié, etc., et ressusciter des morts. Ils ne l'ont pas cru. Et Jésus, qui vient avec cette pédagogie qu'on lui connaît de plus en plus, si vous marchez avec Dieu depuis longtemps, vous savez combien il est grand dans sa façon de nous parler. Et il s'approche, il aurait pu leur dire, mais quand même, vous ne vous rendez pas compte, vous m'avez tous abandonné, vous m'avez renié, il est où Pierre? Il était là, Pierre? Est-ce qu'il y était, Pierre? Oui, il y était. Hier soir, je discutais avec lui. Je ne sais pas dans quel état il était, le pauvre Pierre. Je ne sais pas à quoi il s'attendait. Mais en tous les cas, je sais une chose, c'est que Jésus, quand il est entré dans cette chambre d'une façon inhabituelle, il leur a dit, la paix soit avec vous. Dieu est un Dieu de paix. Ce matin, s'il y a une chose qui devrait caractériser la réunion, c'est que la paix de Dieu soit sur chacun de nous. Bien sûr, si on vient tous en braque, ça, on va avoir du mal à se procurer la paix, parce que quand même, quand on est en paix, on a le grand privilège de la procurer aux autres. Heureux ceux qui procurent la paix. Donc, il y a une parole de Jésus qui est là, dans les Saintes Écritures. Elle est à Thomas, d'accord, mais elle n'est pas pour Thomas. Si elle est dans les Saintes Écritures, elle est pour toi et pour moi. Jésus donc dit, regarde mes mains. C'est un message. Quand Dieu dit quelque chose, il faut réfléchir. Les gens, ils écoutent des prédications, ils écoutent avec les oreilles physiques, mais ils ne comprennent pas que derrière, il y a un message qui va remettre un homme de Dieu dans l'incrédulité sur la grâce extraordinaire de réaliser que Jésus-Christ est Dieu. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est Dieu, vous ressemblez énormément à Thomas. Jésus-Christ est Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, dépouillé de sa gloire. Regarde mes mains. Et là, nous qui allons prendre le pain et le vin tout à l'heure, nous qui avons lu tout à l'heure que nos noms, je sais pas si on le comprend. Là, j'avouerai que c'est pas grave si on le comprend pas. Mais quand Dieu dit que ton nom, ton prénom est gravé dans ses mains, ça en dit long sur son amour et sur le calvaire. Donc, les évangiles nous montrent les mains de Jésus qui ont béni. Les mains du Seigneur Jésus qui ont formé la terre, qui ont créé les cieux et l'univers et les galaxies, etc. Le Seigneur qui a tout créé, il est venu sur la terre, il a posé ses mains sur les gens. Pourquoi faire? Pour les bénir. Est-ce que vous croyez ce matin que la main de Jésus est capable de vous bénir? Ou est-ce que vous croyez que sa main est trop courte? Ou est-ce que vous ne croyez plus? Ou est-ce que vous êtes de ceux qui sont justement en train de basculer dans l'incrédulité en n'acceptant pas telle ou telle épreuve, alors que telle et telle épreuve, vous auriez dû l'utiliser pour surmonter le mal par le bien? Là, c'est un manque de connaissance, c'est de l'ignorance, c'est de la mauvaise foi, j'en sais rien, qu'importe. En tous les cas, le diable, lui, il sait ce qu'il faut faire pour nous éloigner de ces rendez-vous bénis. Et heureusement que Jésus-Christ est capable de revenir 8 jours après, 8 semaines après, 8 mois après, 8 ans après, que son nom soit béni pour sa patience, pour venir et pour nous dire ce qu'il a à nous dire. Nous, on est maladroits, quand on n'a pas la pensée de Dieu, on est incapable de dire un mot qu'il faut. Moi, je ne sais pas, moi, on m'aurait dit, qu'est-ce que tu as à dire aux disciples le soir de la résurrection? Qu'est-ce que vous auriez dit? On vous dit, écoute, tu vas voir les 10 disciples, ils sont enfermés, ils ont peur, il te faut aller leur donner une explication. Qu'est-ce que vous auriez dit aux 10? Qu'est-ce que vous auriez dit? Aidez-moi, vous avez le droit de m'aider. Qu'est-ce que vous auriez dit aux 10 apôtres? Vous n'avez pas honte? Mais vous n'avez pas honte? Vous l'avez tous abandonné. Qu'est-ce que vous auriez dit? Et toi, Pierre, fais pas le malin. Qu'est-ce que vous auriez dit aux 10? Franchement, si on vous avait dit, écoute, vous avez la responsabilité d'aller leur remonter les bretelles. Vous auriez dit, la paix soit avec vous? Peut-être qu'on n'y aurait même pas été. Vous savez, l'homme tellement intelligent, nous on aurait dit, mais il ne mérite même pas. Ils ont abandonné Jésus, eh bien, on va les laisser traîner un petit peu. Vous savez, nous, on est compliqués. Le Seigneur Jésus a dit à Thomas, regarde mes mains. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Beaucoup de chrétiens n'écoutent plus. Ils entendent une prédication, ils sont capables de la résumer, ils sont capables de l'expliquer. Je parle d'écouter avec les oreilles du cœur. Est-ce que vous pouvez croire un instant ce matin que Dieu du haut des cieux, puisse m'inspirer pour vous parler et vous dire d'une façon bénie, regarde mes mains, elles sont toujours capables de guérir. Vous avez vu ce que Jésus a fait? Un des premiers miracles, il prêche, tout le monde est scotché par l'autorité qu'il a, les gens le suivent, mais il y en a un, il ne suit pas, il s'approche, il nous a dit que la foule le suivait, et qu'un lépreux s'est approché, il a risqué gros en s'approchant, il a risqué de se faire lapider premièrement, enfin si j'en passe, mais enfin tous les cas, il s'est retrouvé au pied du Seigneur. Et il a dit à Jésus, si tu le peux, tu peux me rendre pur. Et Jésus a fait quelque chose qui était insensé, humainement. Il a mis sa main sur le lépreux. Je le veux. Ça n'a pas pris quand même longtemps. Nous, on est là, des fois, on prie pour les gens, on tremble un peu, vous voyez, enfin, moi, je ne fais pas ça. Hein. On prie longtemps, en pensant qu'en priant longtemps, ça peut marcher mieux, vous voyez. Bon. Mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que sa main, ce matin, peut te bénir? Mais vraiment, te guérir? Je le veux, soit purifié. Et aussitôt, ce lépreux, un autre texte dit qu'il était couvert de la tête aux pieds. C'est l'image vraiment de l'homme qui est empêtré dans le péché de la tête aux pieds. C'est l'image de l'homme qui est embourbé dans la misère. Est-ce que ça peut arriver à un chrétien de se retrouver embourbé dans la misère, embourbé dans l'incrédulité, ne plus croire un de ses frères, qui pourtant des gens quand même sérieux? Vous savez, quand on en arrive à me remettre tout en question, on ne croit plus personne, moi je ne crois plus personne, j'en ai marre. Eh bien, regarde ses mains, regarde pas l'église. Tant mieux si on peut regarder l'église et que l'église soit belle, tant mieux. Mais regarde les mains du Sauveur. Ces mains qui se sont posées sur le lépreux. On pourrait résumer l'évangile, Jérôme l'a fait par les chants. Ces mains qui se sont posées sur la belle-mère de Pierre, vous rappelez? Ils ont, comme par hasard, ils ont été mangés chez Pierre et sa belle-mère, comme par hasard, était malade, couchée sur son lit, incapable de servir. Combien de chrétiens sont malades? Ils croient en Dieu, ils aiment Dieu, Jésus est même capable d'aller dans leur maison, mais voilà, ils sont incapables de servir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris sa main, avec sa main, il a pris la main de cette femme, et il a prié. Et cette femme, de suite, elle s'est levée et les a servis. Et je pense qu'elle devait être heureuse d'avoir vécu cette expérience. La fièvre spirituellement parlant, je ne sais pas si vous savez ce que ça représente. Quand ça chauffe un peu, vous savez?
Vous savez, quand ça chauffe là aussi, vous savez ce que c'est la fièvre spirituelle? Quand ça va pas bien, quand ça commence à chauffer, quand on commence à en avoir marre de ce qui est, que ça nous empêche et ça nous paralyse. Regarde les mains du Seigneur. Sa main, vous croyez que s'il a fait ça à la mère, à Pierre, à la belle-mère, il peut le faire ce matin? Comment vous avez chanté « Il veut te bénir aujourd'hui » C'est vrai que ce sont des cantiques pleins de joie, pleins d'allégresse. Mais moi, quand je l'ai chanté, je sais que c'est vrai. « Il veut te bénir aujourd'hui. » Qui? Je me souviens, j'avais fait une réunion à Montauban, et pendant la prédication, il y a une mémé qui se lève. Elle se lève, je peux parler? Alors, moi, j'étais là, je regarde M. Salvador. Elle se lève et je dis « J'ai été guéri pendant la réunion. » J'ai été guéri pendant la réunion. Et à la fin, il y a une autre mamie qui vient me voir. Elle me dit, si Jésus a guéri cette femme, moi je ne me suis pas avancé parce que s'il en a guéri une, en guérir deux, ça devait certainement être compliqué. J'ai dit, mais vous savez, on peut quand même prier. Vous voyez, elle croyait que si Jésus avait guéri une personne, ça allait être difficile pour lui d'en guérir une deuxième. J'ai dit, ma sœur, si vous saviez... Est-ce que vous croyez ce matin que pendant le pain et le vin, maintenant, la main du Seigneur peut se poser sur nous? Tout est possible à Dieu, tout. Tout est possible à Dieu, on peut le modifier, l'expliquer. Tout est possible à celui qui croit. Croire, mais c'est vrai Seigneur, tu es au milieu de nous. J'en ai assez de venir, d'être toujours triste, d'avoir toujours le cafard, d'être toujours là. Je t'aime Seigneur, mais vraiment je t'aime. Et en même temps, je n'arrive pas à entrer dans cette victoire. Seigneur, je crois que tu peux me toucher. J'ai la fièvre spirituellement, j'en peux plus. Vous savez, je suis pas moi, je suis pas. C'est vrai, je suis pasteur, je suis plus dans l'édification que dans l'évangélisation. Mais vous savez, il y a 15 jours, quand je me suis fait remplacer par Jérôme, vous savez, quand je ne viens pas au culte, sincèrement, c'est que vraiment, je ne peux pas venir. Et j'ai voulu aider ma femme vite fait, elle m'a dit, il y a un truc, elle pensait qu'il y avait un rhinocéros ou une puce derrière le lit, je ne me rappelle plus. Elle m'a demandé de pousser le lit, et moi je l'ai fait machinalement, et mon bras craquait, ça a craqué. Et puis après, quand on était en train de manger, on avait invité le futur stagiaire qui va venir, et une douleur est partie de mon coude à mon épaule. Une douleur. Impossible après de faire la sieste. Impossible de dormir. J'ai appelé Jérôme. Et je savais. Impossible de bouger le bras. Impossible. J'ai dit, t'en as pour des mois. Et le dimanche soir, je priais dans mon lit. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Je sais que tu habites en moi, je le sais. Je sais que tu permets des épreuves. Et je sais que... Merci pour les épreuves. Mais là, franchement, ça va être difficile. Je te demande de poser ta main sur mon bras. Vraiment. Mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger le bras. Et sans bouger, j'avais mal. J'ai prié. Je sais que le Seigneur, il est en nous. On est le temple du Saint-Esprit. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur, Jésus est en vous. Il est dans la salle à manger, dans les salles principales. Il peut être au fond de la cave, mais il est en vous. Et bien, je sais quand même que le Seigneur, il habite en moi. Je dis, Seigneur, écoute, guéris-moi, s'il te plaît. Je m'endors. Je me réveille, pas de douleur dans le bras. Je commence à bouger le bras, rien. J'essaie d'attraper l'interrupteur parce que c'était impossible. J'arrive. Et je vous assure que j'ai vécu la guérison. Vraiment, je vous assure. Demandez à ma femme si elle n'a pas fait une expérience cette semaine. Je suis sûr qu'elle aimerait vous venir vous le raconter. Vous ne croyez pas que Dieu guérit? Elle devait se faire opérer des yeux. Et l'ophtalmo lui a dit, c'est un miracle. Dieu a posé sa main, vous avez retrouvé une partie de la vue, je n'ai pas besoin de vous opérer. On a prié tout simplement. Vous croyez que Dieu guérit? Mes frères et sœurs, le Seigneur, il guérit. Regarde mes mains. Et ce matin, vous êtes là, peut-être vous voulez un bon message, je sais ce que c'est. Vous voulez une bonne exhortation, c'est vrai que ça fait plaisir, c'est comme un bon repas. Vous allez au restaurant, vous savez que vous allez bien manger, que c'est bien chauffé, que vous êtes avec des gens que vous aimez. Ça vous est déjà arrivé d'aller au restaurant avec des gens que vous aimez? Des gens que vous aimez vraiment? Vous passez un moment béni, c'est extraordinaire. Mais il y a plus que ça dans l'église. Il y a la nourriture qui peut faire du bien, mais il y a la main du Seigneur qui se pose sur nos corps, sur nos âmes, sur nos esprits, sur nos besoins. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui pourvoit. Vous vous rappelez quand ils se sont trouvés là dans... Hier, je lis, quand je comprenais bien que je lis quand même ma Bible, et je lisais hier la façon dont le Seigneur s'y est pris. On va le lire ce verset. J'aimerais que vous le lisiez avec moi lorsqu'il y a eu un grand besoin. Je ne sais pas s'il y a des besoins dans votre vie. Je crois que c'est dans l'évangile de Marc, oui. Oui. Dans l'évangile, la multiplication des pains est racontée dans les quatre évangiles. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Chaque évangile le présente d'une façon un petit peu différente pour, bien sûr, embellir cette histoire merveilleuse. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, il y a une grande foule. Ils sont là, ils ont faim. Le lieu est désert, l'heure est avancée, les apôtres disent à Jésus ce qui est le plus simple, Marc chapitre 6 verset 36, renvoie-les. Renvoie-les, bon monsieur, c'est la solution de facilité, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et qu'ils achètent dans les villages pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, mais irions-nous acheter des pains pour 200 deniers ? Et leur donnerions-nous à manger ? Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain ? » Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Ailleurs, c'est écrit « 2 petits poissons. » Regardez bien, regardez bien. Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. C'est écrit, c'est précisé uniquement là. Je me suis dit, tu vas prendre le texte qui te va le mieux pour demain, sur les quatre. Et j'ai trouvé celui-là. Pourquoi ? Parce que moi, je trouve que c'est plein de bénédictions. Jésus les a fait asseoir, pas sur des cailloux pointus. Jésus les a fait asseoir tous sur de l'herbe verte. Pourquoi ? Eh bien, parce que le Seigneur, il sait nous faire asseoir. Il s'est commandé. Il leur commanda. C'était un ordre. Je ne sais pas si vous aimez les ordres. On a eu un don sur l'obéissance. Il y a des gens qui ne supportent pas l'obéissance. La désobéissance, c'est l'affaire du diable, la désobéissance. Et là, on voit la délicatesse du Seigneur, voyez ? Parce que quand même, ce n'était pas la peine de l'écrire. Si on regarde bien, il s'assoit, point barre. Non. Jésus les fait asseoir sur de l'herbe verte. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'affection. On a besoin de tendresse, oui ou non ? On a besoin d'être bien. Et qu'est-ce que Jésus fait ? Il prend les pains, il les prend. Les deux poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Tu rends grâce pour une si petite chose ? Mes frères et sœurs, écoutez bien, c'est pas de l'humour que je fais. Pourquoi vous rendez grâce au fait ? Est-ce que vous rendrez grâce pour les toutes petites choses que Dieu vous a données ? Ou est-ce que vous attendez d'avoir de grandes choses pour faire de grandes prières ? Mes frères et sœurs, vous savez, il y a des lois dans la parole de Dieu. Ces 5 pains, ces 2 poissons, ils se sont retrouvés où ? Dans les mains du Seigneur. Je ne sais pas où sont vos problèmes, je ne sais pas où sont vos petites choses, je ne sais pas où sont vos vies, mais mes frères et sœurs, à un moment donné, il faut que ça finisse dans les mains du Seigneur. On le dit, Seigneur, étends ta main, je mets ça entre tes mains. J'ai bien peur que ça soit des formules. Mes frères et sœurs, même si vous n'avez pas grand-chose, déjà rendez grâce. Rendez grâce. Seigneur, j'ai pas grand-chose, mais je veux te rendre grâce. Vraiment, je veux le faire. Moi, j'ai entendu, rendre grâce, t'as vu ce que j'ai, t'as vu le salaire que j'ai, t'as vu ce qu'on gagne, et tu crois qu'ils vont... Mais vous ne croyez pas que Dieu est le Dieu qui peut multiplier ? Et quand on est dans cet état d'esprit, on finit par se retrouver comme Thomas, même si on est Thomas, l'apôtre et le pasteur, pourtant qui croyait plus en personne et en rien. Et heureusement que le Seigneur sait nous parler. Mes frères et sœurs, quand quelque chose est dans la main du Seigneur, c'est vrai que bon... C'est vrai que la suite, ça ne nous plaît pas trop parce qu'il est dit qu'il a rendu grâce. Et puis, qu'est-ce qu'il y a écrit dans votre Bible ? Il rendit grâce, point. Puis, il est rompu. Vous savez ce que ça veut dire spirituellement ? Ça veut dire que lorsqu'il y a de la multiplication, lorsqu'il y a la bénédiction, il y a aussi le brisement. Que Dieu peut permettre que quand on est dans ses mains, il y ait du brisement. Vous comprenez mes frères et sœurs ? Et c'est une bénédiction. Seigneur, tu permets un brisement. En ce moment, j'ai un brisement dans mon couple. En ce moment, j'ai un brisement dans mon travail. En ce moment, j'ai un brisement dans ma santé. Mais Seigneur, c'est pas grave. S'agit que ce que j'ai, même si c'est pas beaucoup, ça soit entre tes mains. Dans ta main, Seigneur Jésus. Est-ce que votre vie est dans la main du Seigneur ? En parlant de religieux comme Thomas, vous rappelez ce chef de la synagogue ? Tout d'un coup, il est là, il discute peut-être avec sa femme. Leur petite fille, je crois de 12 ans, 12 ans, est en train de mourir. Il apprend que Jésus est dans la ville, il court et il va à la rencontre de Jésus, il se jette à genoux. Et il n'a pas honte, c'était le chef de la synagogue, c'était le chef. Mais vous savez, quand on a des besoins, c'est bizarre comment on peut se jeter à genoux. Et il se jette, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, elle vivra. Entre-temps, Jésus est arrêté par une femme qui a une perte de sang. Vous connaissez cette histoire. Et le père, il doit être là, il doit être irrité de Jésus, il n'arrivera jamais. Et puis tout d'un coup, l'apothéose, il y a des gens qui arrivent de sa maison et qui lui disent « Mais c'est pas la peine, ça sert à rien. Ça sert à rien que t'importunes le maître, ta fille, elle est morte. » Ne crains pas, crois seulement. Et qu'est-ce que Jésus fait ? Il va à la maison, il va toucher cette petite fille qui vient de mourir. Est-ce qu'il devait la toucher normalement ? Est-ce qu'on avait le droit de toucher des morts ? Non. Et il la touche. Parce que Jésus peut toucher tout. Il peut vous toucher ce matin. Et cette fille, elle est revenue à la vie. Nos enfants. Vous vous rappelez, les enfants, c'est un problème, les enfants. C'est un problème, la perception qu'on a des enfants. Vous vous rappelez, quand Jésus, un jour, est en train de parler, il est en train de bénir, puis tout d'un coup, il y a des mamans qui se disent, mais il a béni les grands, ben, il peut bénir les petits. Donc, elles amènent les enfants à Jésus. Et quand elles amènent les enfants à Jésus, les disciples, ils renvoient, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils viennent nous embêter, ces gosses ? Et Jésus dit, mais laissez-les venir à moi. Et il les prend sur ses genoux, et il pose les mains sur eux, et il les bénit. Mes frères et sœurs, quand Jésus dit, regarde mes mains, est-ce que vraiment vous croyez que Jésus peut poser ses mains sur vos enfants ? Est-ce que vraiment vous le croyez ? Ces mains qui ont créé l'univers, la Bible dit, bon, je ne veux pas faire de l'humour, mais enfin quand même, la Bible dit que la terre, c'est son marchepied. 12 000 kilomètres de diamètre. Vous avez une idée de la taille du pied. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que Jésus, il est grand. Pourquoi il s'est écrit que la terre est son marchepied ? Pour nous montrer qu'il est tout puissant. Il peut poser sa main sur votre fille. Mais ma fille, elle est inconvertie, elle est méchante. Elle ne veut pas qu'on parle de Jésus quand elle vient à la maison, sinon elle ne vient pas. Mais vous ne croyez pas que Jésus peut poser sa main sur elle ce matin ? Mais qu'est-ce que ça veut dire de chanter « Il veut te bénir aujourd'hui » ? Ça veut dire que Dieu peut poser sa main sur ta fille maintenant. Maintenant, mes frères, il faut absolument que moi, je vous assure, quand j'ai fait l'expérience du bras, je savais que j'en avais pour démon, je le savais. Et quand même, je ne pouvais même pas mettre une chemise, vous comprenez bien, c'était grave. Hein. Je savais que ça allait m'handicaper pour servir Dieu. Et j'ai fait cette expérience. Vous n'avez pas envie ce matin d'en faire une qui correspond à celle que vous devez faire ? Oui, le Seigneur est capable de pourvoir, même si vous n'avez pas grand-chose. Mettez votre vie entre ses mains. Mettez votre âme entre ses mains. Mettez tout votre être, votre esprit d'obéissance entre ses mains. L'œuvre de l'Éternel prospérera à vos besoins, à tous vos besoins. À tous vos besoins. À qui il a dit ça, que mon Dieu pourvoira tous vos besoins ? Tiens, ça c'est encore grâce à Monsieur Olé. Vous rappelez cette promesse ? Elle est affichée dans tous les bouquins de promesses. « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins. » Vous connaissez ce texte ? Vous connaissez le contexte ? Bien, on va le lire. Philippiens chapitre 4, si je ne me trompe pas. Regardez bien, parce que vous savez, le contexte, c'est voilà, que les pains, les poissons sont dans sa main. Une promesse, parce que est-ce que si les 5 pains et les 2 poissons étaient restés dans les mains du petit garçon, est-ce qu'elles auraient été bénies ? Non. Regardez bien, alors c'est dans Philippiens. Regarde, mes frères et sœurs, c'est archi sérieux ce qu'on est en train de voir. C'est le même principe pour que les mains du Seigneur se posent. Il faut être là. Thomas n'était pas là, il est passé à côté. Heureusement que Jésus est patient. 8 jours après, il revient, Jésus est là. Il pourra voir ses mains. Il faut voir les choses. Philippiens chapitre 4, verset 19. Ce verset, on le prend toujours hors du contexte. Ça fait que les chrétiens sont frustrés et ne voient pas Dieu pourvoir. Alors qu'il a dit, Philippiens 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Le contexte, verset 16. « Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Le contexte, c'est que c'est une église qui s'est donnée, qui a donné. Et je ne dis pas ça pour que vous donniez. Mes frères et sœurs, écoutez, soyons sérieux. Mais, et Dieu pourvoira aux besoins. Lorsque je fais ce qu'il me demande, vous comprenez bien que Dieu fait les choses d'une manière intelligente. Bien sûr que Dieu peut bénir n'importe qui, n'importe quand. Je me souviens de cette femme qui était une sorcière. Je l'avais rencontrée dans un magasin à Groyer, une vraie sorcière. Et le chrétien qui était là me dit, ouais, cette femme, elle tire les cartes, elle fait du magnétisme, etc., etc. Elle fait que des choses diaboliques. Et justement, j'avais une Bible et je lui lis le texte de Deutéronome 18:10, que quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Elle s'est assise, elle est restée pétrifiée. J'ai dit, madame, vous travaillez pour le diable. Alors elle était toute tétanisée. J'ai dit, oui, vous travaillez pour le diable. Il faut vous repentir parce que sinon vous allez aller à l'enfer. Bah, des fois, je n'ai pas beaucoup de temps, alors il faut le dire vite. Hein. Alors, elle m'a fait venir. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, vous pouvez venir? Et elle était là, elle transpirait. J'ai jamais vu quelqu'un transpirer comme ça, c'était impressionnant. Et elle était là, elle pleurait, et je lui dis, mais madame, il vous faut vous repentir, il vous faut vous convertir, Jésus-Christ a versé son sang pour vous, etc. Et puis elle me dit, mais monsieur, si vous saviez combien je suis dans la misère, j'ai besoin de 140 000 francs, elle avait à l'époque, 23 000 euros je crois que ça fait. Sinon on va me saisir la maison, mais j'ai dit, mais vous ne croyez pas que si vous donnez votre cœur à Jésus-Christ, Dieu peut pourvoir? On va prier. Elle a prié, elle était délivrée en même temps que je priais. C'est extraordinaire. Elle me rappelle deux jours après, elle me dit, monsieur Hugo, j'ai reçu un héritage d'une tante qui est morte, je ne la connaissais même pas, 140 000 francs. Je crois que ça vient de Dieu, j'ai dit, je crois aussi. Il est tout puissant. Tout pouvoir, avant de remonter au ciel, il l'a dit ou il ne l'a pas dit? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Beaucoup de chrétiens, ils sont là, ils ont la crainte du diable, ils sont là. Vous savez, il y a des chrétiens, ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Ils voient, ils glorifient, entre guillemets, plus le diable que la puissance du Seigneur. Et les combats, et qu'est-ce que je m'attrape, et qu'est-ce que je combats en ce moment, et comme si c'était le diable qui gouvernait. Mes frères et sœurs, quand un homme obéit à Dieu, c'est Dieu qui gouverne sa vie. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. C'est l'apôtre Pierre qui dit que depuis qu'il est remonté au ciel, il a autorité sur toutes les dominations, sur les principautés, sur les autorités. Tout lui est soumis. Est-ce que ce matin, nos vies sont dans sa main? Ses mains justement. On pourrait multiplier les exemples, je pourrais le faire, j'ai tout marqué. Mais enfin, arrêtons-nous là. Et qu'est-ce qu'on a fait de ses mains bénies? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, de ces mains qui ont caressé la main levée de Pierre, qui ont mis la main sur le lépreux, qui a ressuscité la petite fille? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, des mains de Jésus, au fait? Qu'est-ce que vous en auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait de ces mains si vous aviez été à côté de lui ce jour-là? Comment? Vous aurez embrassé, oui. Vous trouvez que ça tient debout? Ben oui. Embrasser les mains du Seigneur. Caresser, je ne sais pas, je ne sais rien, comment on ferait. Mais enfin, et vous avez vu ce qu'on a fait? Je vous dis que l'homme, il est vraiment fou, l'homme. On les a crucifiés. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Vous rendez compte, ces mains qui ont béni, qui ont parcouru la Galilée, etc., qui ont béni tous les hommes qui se sont approchés, on les a crucifiés. Crucifié, on te dit, mais c'est pas possible. Et ce sont des religieux qui l'ont poussé en plus. Mes frères et sœurs, et il s'est laissé crucifier. Il est dit dans Ésaïe 50, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats et à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et on pourrait multiplier ce matin pour glorifier son nom, tout ce qu'on lui a fait subir. Cette couronne d'épines, tout ce qu'il a subi, on pourrait, et ça serait bien de le faire. De lire tous ces textes, tout ce qu'on a subi. N'oubliez pas qu'on a affaire au Fils de Dieu. On n'est pas en train de maltraiter un malfaiteur. On est en train de maltraiter celui qui, quelques jours avant, bénissait, ressuscitait Lazare et tout ce qu'il a fait qu'on ne peut même pas dire tellement il y en a. Il n'a rien dit. Vous connaissez les textes? Il n'a rien dit. On l'a crucifié. Est-ce qu'il aurait pu soufflé un peu sur ses ennemis, il les a bénis. Ses mains percées, ses pieds percés, il n'a rien dit. Pourquoi ? Pour nous sauver et pour continuer à nous bénir. Pour continuer à pouvoir dire, comme il a dit à Thomas le soir de la résurrection, ou 8 jours après plutôt, « Regarde mes mains ». Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est conscient que les mains du Seigneur gouvernent l'univers ? La Bible, on pourrait prendre les textes, faites-le avec une concordance. Regardez tous les textes où il est dit que la main de l'Éternel, elle est sur ceux qui le craignent. La bonne main de l'Éternel était sur moi. On l'a lu. Même moi, si une femme a abandonné son gosse, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait pitié. Vous regardez les infos et des fois, vous entendez qu'une mère, elle a mis son bébé naissant dans un congélateur. Vous l'avez déjà entendu, sûrement. Alors qu'on n'est pas là pour juger. Mais Jésus dit que même si une femme a abandonné son gosse, lui, il ne t'abandonnera jamais. Et si vous faites partie de ces gens qui sont tout le temps en train de dire « Oui, mais si Dieu faisait ceci, si Dieu faisait cela », parce que je peux vous dire quand même que le Thomas, il aurait pu avoir une autre parole. Et Dieu, dans sa tendresse et sa miséricorde, lui dit « Avance, avance Thomas, avance. Est-ce que vous êtes d'accord ? Peut-être pas maintenant, quoique pas physiquement. » Mais spirituellement, pour dire ce matin, mais bien sûr que je vais m'avancer. Et que j'ai envie de me retrouver à tes pieds. Il y a Rembrandt, je crois, qui présente une peinture où on voit Thomas mettre le doigt dans la... C'est une plaie. Je ne suis pas sûr qu'il l'a fait. Moi, je ne l'aurais pas fait. Je sais que moi, je ne l'aurais pas fait. De la honte que j'aurais eue. Et de l'émotion que j'aurais eue. Mais avance-toi. Est-ce que vous entendez ce matin une parole de Dieu dans votre âme, mais avance, et de nouveau, mets-toi contre moi, mets-toi contre mon cœur, comme faisait Jean, mets-toi là, devant ma parole, quand vous vous mettez contre la parole que vous lisez, avec les yeux, et où, avec votre âme, Seigneur, mais montre-moi tes mains. Ta main sur moi, vous vous rendez compte, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Vous le croyez, votre foyer prospérera. Si votre foyer il est entre les mains du Seigneur, vous n'avez pas envie que votre foyer soit dans les mains du Seigneur ? Tout votre foyer, votre mari, votre épouse, vos enfants. Mais Seigneur, je mets mes enfants entre tes mains et je le crois. Je prie, mais vous savez, je prie, mais bof. Je prie, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Ben, c'est sûr, si vous en êtes là... Je pense que vous êtes dans l'incrédulité. C'est plus du doute, là. Vous savez ce que Jésus a payé pour que les prières soient exaucées ? Parce que tout ce qu'on peut vivre et recevoir, c'est le résultat du calvaire. Je ne sais pas si vous le savez. La prière, c'est quand même extraordinaire. La prière, elle est le résultat de l'œuvre de Christ au calvaire. De ses mains percées. Et nous devrions peut-être nous remettre en question, et surtout en train de décourager des nouvelles personnes. Vous savez, moi je prie, hein. Ça fait 20 ans que je prie pour mon mari, mais ça ne sert à rien. Pourquoi vous priez ? Ah ben je prie pour mon mari, parce que ça serait bien qu'il m'amène au culte, j'en ai marre de prendre le bus. Moi j'aimerais bien que vous priez pour ça. Ben oui, je prie pour que mon mari mène à l'église. J'en ai marre de venir en bus. Elle ne prie pas pour le salut de son mari. Elle prie pour que son mari lui rende service. Vous croyez que je ne l'ai pas entendu, ça ? Je pense qu'on ne prie pas pour que son mari soit gentil. Bien sûr que s'il se convertit, il sera gentil. Je pense qu'on prie pour que son mari soit sauvé. Qu'il vous amène ou pas. Mais quand on en est là, je me demande comment sont dirigées nos prières. On prie pour le salut des gens. On prie parce que Jésus a laissé ses mains se crucifier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand Pierre essaie de le défendre, il lui dit « Mais tu ne sais pas que je pourrais à l'instant même demander à mon Père des légions d'anges. » Des légions d'anges. Quand vous voyez que ce que certains anges ont fait tout seuls dans l'Ancien Testament, quand vous voyez un ange qui a décimé dans une nuit 185 000 Syriens, je pense qu'il y avait 12 légions, ça correspond à peu près à 70 000 anges. Si c'était occupé des ennemis à Jérusalem, je pense que ce jour-là, il y aurait eu des dégâts. Il n'a rien dit. Ce matin, il te dit, regarde mes mains. Parce que je veux utiliser mes mains pour bénir tes enfants, pour bénir ton corps malade. Vous entendez ? Le pain et le vin, il ne faut pas que ça soit de la religiosité. Le pain et le vin, c'est une occasion de dire, Seigneur, je crois que tu vas poser ta main sur mon corps. Vous entendez, mes frères et sœurs ? Je veux faire une expérience avec toi, Seigneur. Pose ta main sur ma vie. Pose ta main sur mes enfants, je sais que tu m'entends. Pose ta main sur mon cœur, que j'apprenne à faire ce que tu me demandes. Dieu pourvoit quand on fait ce qu'il nous demande. Peut-être que ça fait longtemps que vous ne faites pas ce que Dieu vous demande. Ce petit garçon, il aurait pu dire, non, moi mes pains et mes poissons, c'est pour moi, non. Il les a donnés. Il y a combien de temps que vous n'avez pas mis dans la main du Seigneur, peut-être le tout petit peu que Dieu vous a donné. Vous ne croyez pas que ça vaut la peine d'y réfléchir? Pose ta main sur moi, Seigneur, pose ta main sur moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ce matin à faire une expérience avec le Seigneur? Quelqu'un qui est prêt à dire, Seigneur, je... Pose ta main sur moi. Mes prochains cultes personnels, mes prochains moments où je me retrouverai seul dans ma chambre, je sais que tu es là. Moi, je le dis pas, je dis aux stagiaires, ne parlez jamais de vous quand vous parlez. Ça. Il y a des prédications, c'est lourd, les gars, ils parlent toujours d'eux, c'est pénible. Mais il y a quand même des expériences, des fois, que c'est bon de partager. Et je crois quand même qu'on a pu tous expérimenter des moments où on a été touché par la grâce de Dieu. Est-ce que vous n'avez pas envie de dire, mais Seigneur, moi je veux revivre certaines choses avec toi. J'ai besoin d'être libéré de ça. J'ai besoin, Seigneur, mais je vais faire ce que tu me demandes. Les Philippiens, ils ont donné. Et c'est sûr que si vous donnez, si vos petits pains et vos poissons se retrouvent dans les mains de Jésus, moi je vous dis que Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et si vous êtes avare, si vous êtes comme cet homme dans le temple avec la main sèche, vous savez, la main sèche, ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce que Dieu est capable de délivrer quelqu'un qui a la main sèche? Est-ce que Dieu est capable ce matin de poser sa main? L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.